Moi, je suis un peu au Kassanga oriental. Je refuse totalement ce qui se
passe. Moi, c'est une diplomatie au Kassanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de les présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour près de 57 minutes d'échange et de partage d'en parole aux auditeurs. La rentrée scolaire pour l'année 2012-2013, c'est pour ce lundi 3 septembre 2012. Parents d'élèves, enseignants et chefs d'établissement s'apprêtent pour ces grands rendez-vous. Dès l'achat des fournitures scolaires au paiement de divers frais, la rentrée scolaire occupe au plus haut point les parents. Notons que cette rentrée scolaire a lieu dans un contexte particulier pour les enfants de certaines villes et localités du Nord Kivu, en proie à l'insécurité grandissante. Comment se prépare la rentrée scolaire dans votre milieu? Nous en parlons avec Jovin Mukadi, conseiller chargé de la coopération internationale au ministère de l'EPSP. 081-890-4339, c'est notre numéro d'appel pour intervenir en direct, mais également par l'adresse pa@radiocapi.net. Kitin Poutou, Comtesse Matouba et Willem Lungaba sont à la réalisation de cette émission, supervisée par Dominique Bamba et puis Roy Lamézi vous la présente. Très belles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et Lamézi.
Pour cette deuxième semaine du mois d'août 2012, vous pouvez nous joindre au 081-890-43-39 pour les interventions en direct. C'est déjà lundi 3 septembre 2012 qui est le coup d'envoi de la rentrée scolaire 2012-2013 va être donné. Une période qui préoccupe au plus haut point, que ce soit les parents, les enseignants, les chefs d'établissement, et aussi les autorités du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Nous faisons le point avec vous dans votre milieu. Comment la rentrée scolaire se prépare-t-elle? Vous pouvez le faire également en nous envoyant votre intervention par l'adresse pa@radiocapi.net. Comme je le disais, nous avons en ligne M. Jovin Mukadi, qui est conseiller chargé de la coopération internationale au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Lui avec qui nous allons partager les préparatifs de cette rentrée scolaire. Monsieur Mukadi, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
La première question, peut-être avant d'aller en profondeur sur les préparatifs, n'est-ce pas, au niveau du ministère de cette rentrée scolaire, est-ce qu'on peut avoir une idée par rapport à combien d'élèves sont attendus cette année? On peut avoir une estimation, c'est possible au niveau du ministère, de savoir combien d'élèves attendons-nous cette année 2012-2013?
Bon, je n'ai pas les chiffres avec moi, parce que vous me prenez là à l'improviste, mais j'aimerais dire qu'en fait, depuis que le chef de l'État a lancé le processus de la gratuité, les nouveaux élèves que nous attendons chaque année, en première année, dépassent aujourd'hui le 1 million d'enfants.
Voilà, 1 million d'enfants par rapport à ceux qui sont...
Ils rentrent pour la première fois
à l'école. Mais nous savons chaque fois, quand il y a plusieurs années, on a vu de rentrées scolaires en deux temps, à Kinshasa, peut-être dans la province, à gauche, à droite, des fois des mots d'ordre, des grèves, et au niveau du ministère, où en est-on aujourd'hui avec les préparatifs pour savoir qu'effectivement, le lundi, les écoles vont ouvrir leurs portes?
Bon, je crois que là, il faudra dire que les préparatifs ne se font pas à deux jours de la rentrée scolaire. Nous avons commencé les préparatifs avant même la fin de l'année qui précède. Et nous venions maintenant de boucler toute une série d'activités. Et il nous reste, à mon avis, le seul cas de force majeure qui se pose dans la province du Nord Kivu, où le gouvernement devra intervenir dans les heures qui viennent pour trouver des solutions aux nombreuses, à la majorité d'élèves de cette province qui se retrouvent en dehors de l'école, qui sont parmi les populations déplacées. Je crois que pour les préparatifs, d'abord c'était le calendrier scolaire, comme nous le faisons d'habitude, on le fait de façon partenariale, c'est-à-dire que tout le monde est intervenu, nous avons travaillé, on a produit le calendrier scolaire. Après, il y a eu, je crois vous l'avez suivi, des rencontres avec les syndicats, il y a eu des rencontres avec tous les responsables provinciaux du ministère de l'EPSP, aussi bien les ministres provinciaux que les inspecteurs principaux provinciaux, ainsi que les directeurs provinciaux de différentes provinces éducationnelles que compte notre pays. Nous en avons une trentaine. Voilà.
Et effectivement, aussi, je vois cette question, c'est par rapport à cet tirement qu'on a toujours vu en début d'année scolaire entre les enseignants, les syndicats, le ministère autour de salaire. C'est pour avoir des garanties auprès des parents, auprès des élèves, que cette fois-ci, on ne va pas connaître une rentrée scolaire en deux temps. Vous avez dit qu'il y a eu de rencontres avec tous les acteurs qui sont concernés, mais par rapport à la situation avec les enseignants, a-t-on des garanties que dans ces rencontres, il y a eu un seul point de vue avec le ministère, que le lundi matin, les écoles vont ouvrir leurs portes?
Je crois que vous le savez aussi bien que moi, le ministère est ouvert à tout le monde, il a toujours été. Nous avons eu des séances de travail avec les syndicalistes. Ce qui nous reste, et c'est un problème lié à l'exécution du budget 2012 en ce qui concerne les cahiers de charges qu'ils ont déjà déposés. Et nous pensons que nous allons nous y pencher. Mais pour le moment, je crois que tout est calme. Et la rentrée scolaire sera bel et bien du cas dont j'ai parlé du Nord-Sud.
On pourra revenir là-dessus. Nous avons aussi les auditeurs comme Roger, qui est à Kananga, au Kassai occidental, et Géry, qui est dans le Bandundu. Nous allons vous accorder la parole, bien sûr, pour savoir comment vous vous préparez dans votre milieu par rapport à la rentrée scolaire 2012-2013. 081-890-43-39, c'est notre numéro d'appel pour vos interventions en direct.
Parole aux auditeurs.
Roger, vous êtes avec nous de Kananga au Kassai occidental. Bonjour.
Bonjour, Radio Patu. Je salue les invités, je salue aussi les journalistes de la radio.
Merci beaucoup. Roger, nous parlons de la rentrée scolaire. On sait que c'est d'ici déjà le lundi. À Kananga, décrivez-nous l'ambiance, hein, c'est par rapport à l'instruction, les fournitures scolaires, les frais à payer. Qu'est-ce qui se passe? Comment les parents, les enseignants, tout le monde s'active pour cette rentrée scolaire?
Oui, merci de m'avoir accordé la parole. Je veux dire que ici à Kananga, c'est une chose insatisfaisante. C'est-à-dire, les études ici à Kananga, c'est vraiment cette procédure ou bien cette décision qui vient d'être faite à l'État, c'est impossible.
Roger. C'est quelle décision qui a été prise qui rend impossible l'étude à Kananga?
Mais j'ai entendu que dans d'autres écoles, par exemple les écoles catholiques, les gens vont commencer à payer une augmentation et cette avec les primes. C'est une chose-là, c'est insatisfaisant, justement.
Mm-hmm. Il y a une augmentation des primes dans certaines écoles catholiques. Oh. À Kananga, ce qui inquiète les parents, c'est que vous inquiétez, c'est ça?
Oui, à part ça, pour la préparation, les enfants se sont bien préparés pour la rentrée scolaire d'ici le 3. Mais ce que moi, je veux supposer comme préoccupation, concernant les enfants qui étudient dans des écoles de l'État, si il arrive des cas où les enfants n'ont pas trouvé des biens ou bien des choses qui peuvent les aider à louer les fournitures scolaires pour bien dire. Mais l'État peut aussi prendre ses enfants qui en charge. Voilà la question que je pose à l'invité.
Voilà. Merci, Roger. Au-delà du fait qu'il y a l'augmentation de la prime, n'est-ce pas, que les parents versent dans les écoles, vous parlez de certaines écoles catholiques à Kananga, mais il y a aussi le problème des enfants qui étudient dans les écoles publiques, s'ils n'ont pas le moyen de pouvoir accéder aux fournitures scolaires, l'État est-il supplié pour permettre à ces enfants d'étudier? C'est la question que vous avez posée à notre invité. Merci beaucoup. Nous avons Géry qui est à Bandundu. Bonjour Géry.
Bonjour.
On vous écoute, Géry, par rapport à la rentrée scolaire, comment à Bandundu cela est-il préparé?
Bon, moi je félicite d'abord le ministre de l'enseignement primaire et secondaire parce que la rentrée maintenue est vraiment les trois. Mais les choses qui nous inquiètent vraiment beaucoup de parents se plaignent. les parents se plaignent à quoi? Parce que l'État n'a pas payé les parents. Beaucoup de fournitures scolaires que les parents doivent payer aux enfants, les parents ne songent pas à payer, à acheter cela. Ça, c'est la première préoccupation. La seconde année, que, ici à Bandundouville, les syndicats des enseignants, donc ils ont décidé que l'État lui paye le mois d'août avant de rentrer ici, avant de rentrer à l'école. Si l'État ne paye pas, c'est fait de mois d'août, la rentrée scolaire ne doit pas y aller à Bandundouville. Ça, c'est la deuxième ici à Bandundouville. La troisième, moi, je plais à d'autres écoles. Vous savez, les parents se trouvent d'abord avec beaucoup de difficultés d'acheter les choses. Et d'autres écoles ici à Bandundouville existent. L'uniforme, c'est leur modèle aux parents d'acheter cela. Et l'uniforme en question coûte au moins plus cher. Mais l'État n'a pas payé les parents. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là poseront des problèmes avec les parents. Donc, ça, c'est mes préoccupations à Bandundouville.
Bon, merci. Merci, Jerry. Vous avez trois préoccupations. D'abord, vous félicitez que le fait qu'on ait maintenu la date de la rentrée au 3 septembre, mais il y a aussi ces problèmes des parents qui ne sont pas payés et qui ont des difficultés aussi pour pouvoir se procurer des fournitures scolaires. Mais par rapport au banc de jour, vous dites que les syndicats des enseignants conditionnent la reprise de cours, n'est-ce pas, au versement de leur salaire du mois d'août. Mais votre inquiétude, c'est par rapport aux uniformes. Hein. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui, on les voit même ici à Kinshasa. Une école qui veut peut-être c'est le bleu-blanc, mais l'école a juste un morceau d'habit de couleur jaune, de couleur rouge. On exige assez que ces uniformes soient achetés au niveau des écoles. Ces questions pourront être résolues. Bon, en fait, on va les poser à notre invité. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Jerry de Bandundu. Ernest, vous êtes à Matadi dans la province du Bas-Congo. Bonjour, Ernest.
Bonjour.
Nous parlons de la rentrée scolaire. Comment, à Matadi, on prépare la rentrée scolaire 2012-2013?
Merci bien. La rentrée scolaire est préparée par plusieurs personnes. Le gouvernement, les parents, les enseignants, qui sont les parents, et les enfants eux-mêmes aussi. Ils doivent être dans une politique équilibrée pour rentrer à l'école et reprendre l'activité. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Au niveau de Matadi, c'est la situation réelle de Matadi. Nous avons une catégorie des écoles qu'on appelle les écoles ou écoles du centre. Dans ces écoles, tout est fermé, il faut tout accéder à l'école. Alors, les autorités scolaires, ont des enfants dans ces écoles-là. Mais rien ne se dit malgré les difficultés. Deuxième observation. Au mois de mars, c'est tombé sur la ville de Matadi, où il y a les écoles qui se posent, Saint-Antoine, Saint-Antoine, il y a Londres qui est paralysé. Et jusqu'aujourd'hui, aucun ministre n'a été réélu. Dans quel esprit aussi on doit être pour prendre les écoles? Et hier même, les gens étaient sur les munitions des marchés, pour le gouvernement, avec des moratoires qui l'ont suivi. C'est une réalité au niveau de Matadi. Un autre phénomène. Pendant qu'on parle des rentrées scolaires, l'enseignant est parent. Et tout ce qu'on parle auprès du gouvernement, c'est de nous réaliser, on n'a parlé que des enfants. Même ce qui se passe à l'est. On parle des enfants, on sait qu'il y a des enseignants qui sont en effet puis avoir du travail, parce qu'ils sont en débattage. Mais comment faire les formateurs? C'est déséquilibré psychologiquement, déséquilibré financièrement, il est lui-même parent, lundi il va partir en garde d'emploi des autres et ses propres enfants vivent à la maison sans avoir des choses pour lui. Je ne sais pas dans quel milieu. Et c'est chaque année qu'elle l'a dit. Chaque année, chaque rentrée, la rentrée sur mon passé. Et le vendredi passé, quoi, il y a une semaine ici. Quand on se compte de ces cas, deux personnes dans une transmission, c'est alors un congo. Il a décrit des choses. Et hier, avec Moussa, quand il y a une chose, on ne comprend pas tellement que le gouvernement est en train de prévoir, sinon c'est le mensonge, parce qu'on ne sent pas la préparation réelle pour prendre les préparations de l'enseignant.
Merci beaucoup Ernest, vous avez évoqué plusieurs choses, vous avez dit qu'il y a un problème qui se pose à Matadi, c'est par rapport aux grandes, les écoles dites les grandes écoles, où il faut tout acheter à l'école, les fournitures scolaires, tout il faut acheter à l'école, au-delà des frais qu'il faut payer. Il y a aussi ces écoles qui sont en difficulté par rapport aux récentes pluies, qui on ne sait pas comment les élèves vont pouvoir les réintégrer. Mais il y a les problèmes de l'encadrement de l'enseignant, que ce soit l'enseignant qui est aussi dans les zones où sévissent des cas d'insécurité, comment est-ce qu'il faut l'encadrer
parce qu'il est déséquilibré psychologiquement, financièrement. Il faut penser à tout cela. Quelles sont les mesures que le gouvernement prend pour rendre les enseignants à l'aise? On va écouter Jules qui est à Kindou, revenir à notre invité pour commenter ses premiers points de vue, les préoccupations des auditeurs. Jules, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, je suis pas à Kindou, je suis à Congo, je suis Jules Moderwa Bakasongwe.
Voilà, Jules, vous êtes à Congolo et c'est Piro et la Meiji qui est au micro ici à Kinshasa. Comment à Congolo la rentrée scolaire est-elle préparée?
Monsieur Piro, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. La rentrée scolaire ici à Congolo, officiellement, elle va avoir lieu ce lundi 3 septembre 2012. Comme partout sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les radios que nous avons et l'Église sont en train d'appeler les parents à préparer les enfants à la rentrée scolaire. Mais dans la rue, quand vous écoutez certains parents à ce sujet, exprimer, ils disent que le moyen pécunier a fait les fournitures scolaires au profit de leurs enfants, leur manque grandement. Je vous parle tout en étant au marché central de Congolo, précisément à l'endroit où les uniformes et plusieurs fournitures scolaires sont en train d'être vendus. Je vous confirme qu'il n'y a pas d'engouement comme des années antérieures que nous avons connues ici à Congolo. Tous les parents n'ont pas encore confirmé les inscriptions de leurs enfants dans les écoles où ils étudient, c'est une tradition ici à Congolo. Mais il faut le faire maintenant une quelconque somme d'argent. Et pourtant, beaucoup d'enfants n'ont pas étudié l'an passé par manque de moyens pécuniaires de la part de leurs responsables ou parents. Mmh. Maintenant, l'observateur se demande si les rangs des enfants non retenus à l'école l'an passé ne va pas grossir. Voilà un peu ce que j'avais aussi à dire à la radio Capi.
Voilà, merci Jules de Congolo. Il y a une forte sensibilisation par rapport à la rentrée scolaire, mais il n'y a pas d'engouement pour l'achat des fournitures scolaires par manque de moyens. Il y a aussi ces problèmes de confirmation d'inscription. Il faut de l'argent pour ça. On va demander à notre invité s'il faudrait aujourd'hui encore, comme on va à Kinshasa, donner de l'argent, des accords pour confirmer l'inscription de l'enfant dans l'école, que ce soit l'école où l'enfant est passé dans une classe supérieure. On va en parler. Mais je préfère qu'on écoute une fois pour toutes les Katawandja qui est à Lubumbashi. On va accorder la parole à Jérôme Mukadi. Katawandja, vous êtes avec nous. Bonjour. Katawandja, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui, c'est Katawandja, je suis à Kindou.
Vous êtes à Kindou, vous êtes à Kindou, c'est pas à Lubumbashi. Mais on a des petits soucis avec vous. On a des petits soucis avec votre ligne téléphonique, on pourra voir avec la réalisation ce qu'on peut faire pour vous avoir le temps de pouvoir retourner ici à Kinshasa et écouter notre invité. Et puis on vous reviendra à vous, Katawandja, le temps que vous puissiez arrêter votre récepteur, nous allons revenir à vous.
Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, Piero et Yamich.
Monsieur Jorien Mukadi, vous êtes avec nous sur les antennes. Vous avez suivi le premier groupe d'auditeurs. Il y a des problèmes qui sont posés d'une manière particulière. Hein. Ça dépend de. On est à Kananga, Bandundu, Matadi, Kongolo. Les problèmes vont, bien sûr, de la prise en charge des enseignants, les problèmes des uniformes qu'il faut acheter dans les écoles, les problèmes de fournitures qu'il faut acheter dans les écoles, le problème de confirmation d'instruction. Comment au niveau du ministère tout cela est perçu? Parce qu'on sait aujourd'hui que l'uniforme c'est quelle couleur. Mais faudrait-il pour une petite bande rouge, violet, bleu, rouge qui s'agite sur l'uniforme, que cette uniforme soit achetée à l'école à autant d'argent qu'au-delà même de ce qui peut être acheté sur le marché? Voilà autant de problèmes que les gens ont posé dans leur milieu, au niveau du ministère. Quelles sont les mesures d'encadrement? Quelles sont les réponses que vous leur réservez par rapport à cela?
Merci beaucoup. J'ai suivi toutes les questions qui ont été posées. En fait, il y a une situation que nous déplorons, nous, au niveau du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. C'est que le ministère édicte des normes. Et ces normes doivent être mises en application au niveau de chaque province. Je vous ai dit que nous avions eu des réunions avec des conférences avec les ministres provinciaux de l'éducation. Nous avons eu des entretiens avec tous les responsables éducationnels de province. Nous, on édicte les normes et il faut que ces normes-là soient appliquées non pas par le ministre de l'Éducation qui lui se trouve à Kinshasa, mais plutôt en province où chaque responsable est tenu de jouer son rôle. Il y a également le rôle des comités des parents, qui doivent eux aussi jouer leur rôle par rapport aux circulaires mises en place et par rapport aux relations qu'ils doivent avoir avec l'école. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous avons revu pratiquement, le gouvernement a revu l'arrêté qui crée les comités de parents et les conseils de gestion des écoles, mais il se fait que les comités de parents ne jouent pas leur rôle, ils ne s'impliquent pas dans la gestion des écoles. Tenez, par exemple, en ce qui concerne les uniformes, normalement, les parents doivent s'entendre avec l'école pour voir ce qui est faisable et dans les limites des possibilités des parents. Et c'est là, il y a des circulaires. Il faut que l'exécution de ces circulaires soit prise en charge par les responsables au niveau des provinces et surtout par les comités des parents, notamment en ce qui concerne les frais scolaires. Ensuite, il y a une question qui est venue de Bandundu, une question qui est venue de Bandundu autour de la prise en charge de fournitures scolaires pour les enfants qui étudient dans des écoles publiques. Je crois qu'avant que cette prise en charge soit faite, on doit procéder par une étude pour savoir comment nous allons le faire. Dans un premier temps, ce qui est fait, c'est le paiement des frais de fonctionnement aux écoles, c'est la fourniture des manuels dans les écoles. Pour les écoles secondaires, les manuels sont fournis à un prix qui dépasse toute concurrence. Voilà un peu comment nous pensons que les choses doivent se passer. En ce qui concerne notre ami qui a parlé au niveau de Matadi, l'encadrement des enseignants s'est fait de plusieurs manières. Cela dépend du degré dans lequel se trouve l'enseignant. Vous avez suivi que pendant cette période des vacances, généralement le ministère organise toute une série de formations pour que les enseignants soient au top au moment de la reprise. Ce que nous appelons une formation continue professionnelle. Nous l'avons fait durant cette année, bien sûr que les moyens étant limités, ce n'était pas tous les enseignants qui ont été pris en compte. Moi-même, j'ai été à Matadi en ce qui concerne les enseignants qui sont du domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Quant aux enseignants qui sont dans le Nord Kivu, je l'ai dit, ces enseignants sont parmi les populations déplacées. Nous ne pouvons pas dire que nous voulons que le gouvernement va organiser, trouver des solutions pour que ces enfants-là soient à l'école sans penser aux enseignants. Non, le recensement a été fait. Nous savons combien d'enfants sont déplacés dans les Rutshuru, Goma et autres Masisi et Walika, les Rubero. Nous savons combien d'enseignants aujourd'hui sont déplacés et l'action du gouvernement en urgence sera de voir comment tous ces enseignants seront récupérés de sorte qu'ils puissent être mis dans des camps qu'on pourra créer pour que les enfants du Nord qui vous rentrent à l'école. En ce qui concerne la confirmation des inscriptions, je crois qu'ici également c'est le rôle du comité de parents. Parce que cette situation se passe dans certaines écoles qui sont connues et il faut que les comités de parents eux-mêmes se prennent en charge pour dire voilà ce que les normes qui ont été édictées au niveau national, au niveau central plutôt, et voilà les normes qui viennent du niveau provincial. Je crois que c'est de cette manière-là que nous pouvons tous aller de l'avant en prenant en compte évidemment voilà. Chaque école, comme je l'ai dit, ce n'est pas une école du préfet, c'est une école d'un quartier, c'est une école d'une communauté. Il faut que la communauté se retrouve avec le conseil de gestion, où siègent d'ailleurs certains parents, pour dire que pour telle matière, voilà comment nous devons nous entendre, et voilà comment cela doit se passer.
Oui,
mais lorsque les parents considèrent l'enseignement comme un objet acheté, ils envoient les neveux aller payer le minerval de l'enfant. Qu'est-ce qu'on a demandé ce autant? Ils envoient les neveux, ils ne participent pas aux assemblées générales organisées par les comités de parents. C'est normal qu'on puisse avoir ce type de comportement qui fait que les préfets deviennent pratiquement les propriétaires des écoles, alors qu'ils n'en sont pas propriétaires, c'est que les écoles appartiennent au pouvoir public, bien sûr, mais surtout aux communautés qui envoient leurs enfants dans ces écoles-là. Oui, les parents doivent être à mesure de suivre ce qui se passe sur le plan financier au niveau de l'école, parce que l'État donne le frais de fonctionnement aux écoles. Ils doivent être capables de suivre ce qui se passe sur le plan pédagogique, parce que l'État donne des manuels au niveau des écoles, surtout je parle ici des écoles primaires. Il faut qu'ils sachent que ces manuels doivent être utilisés. Hein? Voilà un peu. Donc il y a un encadrement au niveau des parents qui doit se faire. L'État joue son rôle, il faut aussi que les communautés, aussi bien la société civile représentée par les syndicats des enseignants, ils doivent aussi jouer leur rôle. L'autre jour, j'étais sur au plateau de Radio Capi. Vous avez entendu ce que les syndicalistes disaient. Il faut payer le frais de fonctionnement. On veut bien le payer, mais quand les syndicats n'arrivent pas à dire aux chefs d'établissement, vous avez reçu les frais de fonctionnement, est-ce que vous les avez justifiés? Nous sommes bloqués parce que beaucoup de chefs d'établissement n'ont pas pu justifier les frais de fonctionnement qu'ils ont reçus avant.
Oui, mais monsieur Joubert, mais à partir de ces niveaux-là, il y a autant de problèmes qui se posent, parce que cela revient plusieurs années, on a fait plusieurs émissions, on en a parlé, le problème de fait que ce soit les frais de confirmation, la gestion des frais de fonctionnement, que ce soit tous ces frais exorbitants peut-être que les écoles privées qui se cachent derrière le terme conventionné aujourd'hui utilisent dans leurs écoles, les parents subissent, vous accusez les parents, mais aussi au niveau du ministère.
Je n'accuse personne, je dis que chacun doit jouer son rôle.
Voilà, chacun doit jouer son rôle. Mais dès lors qu'au niveau du ministère, vous vous rendez compte qu'il y a ces écoles qui récidivent, qui continuent, il y a ces préfets qui ne gèrent pas, qui ne justifient pas la gestion des frais de fonctionnement, il y a ces écoles qui exigent les frais de confirmation et qui vont d'une manière très exorbitante. L'aspect que ça donne, l'impression que ça donne auprès des observateurs, auprès des parents aujourd'hui, c'est que le ministère a abandonné ces écoles, surtout ces écoles privées. Il faut utiliser les termes qui sont divers, bien sûr, qui sont des privés conventionnés, si on peut le dire ainsi. On a l'impression que cela échappe au niveau du ministère et les parents, ils finissent par subir parce qu'on ne sent pas qu'il y a des sanctions, des mesures qui sont prises pour contraindre que ce soit le préfet qui gère mal les frais de fonctionnement. Et dans ces conditions, les parents ne vont que subir, monsieur Moukadi.
Oui, je dois dire ici qu'il y a un élément très important qu'il faut souligner en ce qui concerne les sanctions. Nous prenons des sanctions. Nous les prenons, si vous voulez, qu'on vous communique au niveau du service qui s'occupe de frais de fonctionnement et qui s'occupe de la gestion, il y a beaucoup de préfets, beaucoup même de responsables qui sont dans les mécanismes de paiement de ces frais de fonctionnement qui ont perdu leur emploi. Mais moi, je crois ici l'élément principal, j'insiste, l'État n'a pas abandonné l'école, loin de là. Je crois qu'aujourd'hui, l'État... Bien sûr que nous félicitons les parents qui, pendant plusieurs années, ont pris en charge l'éducation de nos enfants. Mais aujourd'hui, lentement mais sûrement, l'État est en train de prendre en charge l'éducation de nos enfants. En payant mensuellement les enseignants, en faisant un effort pour que les salaires soient uniformisés, en donnant des manuels scolaires. Mais il faut, comme je l'ai dit, le suivi sur le terrain ne peut pas être fait par le pouvoir central.
Mais on ne peut pas
être fait par le pouvoir central, ça je m'excuse, il faut qu'il soit fait par les pouvoirs provinciaux et il faut également que les parents, j'insiste, les parents, la société civile et les syndicats accompagnent le gestionnaire des écoles.
Et
c'est ça que nous demandons.
Ça
ne sert à rien pour nous de multiplier des séries de circulaires lorsque ces mêmes circulaires-là comment je peux dire, la population ne s'en approprie pas.
Oui, mais est-ce qu'on peut avoir une idée?
Je vais vous donner un exemple. Nous avons plusieurs lois dans notre pays qui ont été votées, promulguées.
Mais est-ce que la population s'approprie de ces lois-là? Il ne faut pas demander toujours à l'État de faire ceci, de faire cela, mais nous avons des actions planifiées et nous savons à quel niveau notre rôle s'arrête. Mais il faut aussi que les parents, que les enseignants, que tout le monde joue ce rôle. Le rôle des sanctions, l'État l'a et nous l'exerçons au moment voulu lorsque des déclarations nous sont faites et que l'examen de l'État a été fait et que les choses, si se sont révélées, qu'elles se révèlent véridiques, les personnes sont généralement...
Avant d'écouter d'autres auditeurs, il y a cette question et il y a sur l'établissement qui se plaignent souvent de dire que le frais de fonctionnement ne représente pas quelque chose qui peut permettre à ce que l'école se paye des crédits, toutes ces histoires. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée sur l'enveloppe de frais de fonctionnement? Comment ces frais sont-ils versés? Chaque école perçoit combien? De quelle manière on les calcule pour les verser au niveau des écoles? Et ça peut s'élever aujourd'hui à combien pour une école, monsieur?
Bon, je crois que pour les écoles primaires, généralement, c'est aux écoles primaires que des écoles primaires, des écoles secondaires que nous donnons des frais de fonctionnement. Ce qui est vrai, le frais de fonctionnement vient du gouvernement et c'est au moment de la paye des salaires qu'on verse le frais de fonctionnement pour les écoles primaires.
Ça
élève à peu près à $50.
Par mois pour chaque école.
$50 chaque mois, qui permet à ce qu'on achète les produits de première nécessité que nous avons, d'ailleurs, dont les dépenses sont connues, c'est-à-dire que nous avons donné une liste indicative des dépenses qui peuvent être utilisées. Ce qui fait à peu près $500 par année scolaire. En dehors des frais que nous recevons de partenaires comme la Banque mondiale, qui représente à peu près, $400, ce qui fait que pour une école en moyenne, on peut atteindre $1,000, mais pour les secondaires, nous catégorisons suivant les nombres de classes, et puis on voit si ce sont des écoles d'enseignement technique ou de formation professionnelle.
Voilà. Mais là, je pense qu'au niveau du ministère, bon, il faut bien qu'on revoie.
Il y a un mécanisme qui permet à ce que les parents également s'impliquent dans la gestion de ces fonds-là.
Et voilà. Aucune
école primaire, par exemple, ne peut dire qu'ils n'ont pas de crèche. C'est faux.
Voilà. Mais je crois peut-être que, comme vous avez dit, que quand on ajuste l'intervention de la Banque mondiale, on peut aller peut-être jusqu'à $1,000. Mais là, il faudrait peut-être au niveau du ministère qu'on revoie. Parce qu'une école qui peut avoir 5 000 enfants, 6 000, 10 000 enfants, avec $50 chaque mois, je ne sais pas comment...
Non, je crois que nous le donnons en fonction du nombre de classes que l'école organise.
Voilà, mais avec tout ce qu'il faut...
En prenant en compte que la moyenne chez nous en RDC est de 45 élèves par salle de classe.
Voilà, on va écouter Olivier qui est à Lubumbashi, Jean qui est ici à Kinshasa, 081-890-4339, c'est le numéro d'intervention pour les directs dans cette émission consacrée aux préparatifs de la rentrée scolaire 2012-2013.
Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de condition physique. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres d'eau, débarquer en Bandaka, en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon, et j'en parle. Okapi Sports, un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sports, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Parole aux auditeurs, Piero et la Mégie.
Olivier, vous nous appelez de Lubumbashi au Katanga, bonjour.
Bonjour monsieur Piero. Bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
On vous écoute, Olivier, nous faisons le point sur la rentrée scolaire 2012-2013, c'est déjà le lundi, nous sommes à la fin de la semaine. À Lubumbashi, quelle est l'ambiance, comment cela se prépare-t-il?
Oui, ici à Lubumbashi, la plupart des parents se préparent, comme d'habitude, il y a ceux-là qui s'endettent pour acheter les fournitures scolaires. Mais il y a une question vraiment qui a touché beaucoup de parents ici à Lubumbashi. C'est la question de savoir que non, dans la plupart des écoles, on exige les frais scolaires pour le mois de septembre, avant l'inscription et la réinscription des enfants. Surtout dans des écoles catholiques vraiment. J'ai des questions à poser à notre invité.
Oui.
Quelles sont les sanctions que le ministère de l'EPC a prises contre toutes ces écoles qui font de telles bêtises? Parce que, au moment où je vous parle ici à Lubumbashi, je ne pense pas que non, c'est tous les enfants qui vont commencer les études de lundi. Parce que, pour réinscrire les enfants, on exige des frais scolaires pour les mois de septembre, plus des frais d'inscription. Voilà ma question.
Voilà, d'abord, oui, merci Olivier, vous êtes très inquiet, hein, parce qu'on ne sait pas s'il y a des enfants qui vont aller à l'école le lundi, il faudrait payer en avance, il y a des écoles, même ici à Kinshasa, payer d'abord la compte de $100 ou $250 avant, bien sûr, le lundi. Alors, vous voulez savoir s'il y a, quelles sont les sanctions au niveau du ministère pour les gens qui vont au-delà, n'est-ce pas, de ce que la loi dit, de ce que le ministère prévoit. Il y a ces écoles, vous l'avez dit, à Lubumbashi, c'est aussi à Kananga, comme l'a dit notre ami Roger, ici à Kinshasa. Merci Olivier, nous avons Jean qui est ici dans la capitale. Bonjour Jean.
Oui, bonjour monsieur, bonjour à Roger.
On vous écoute.
Et merci de m'avoir accordé la parole. Je suis vraiment trop inquiet par cette année scolaire qui va commencer. Oui, j'ai remarqué, j'ai constaté plusieurs divergences sur le point de fixation des frais scolaires. Quand je voulais en premier lieu demander à l'invité quel est le montant exact fixé par l'État pour le paiement. Pourquoi? Parce que moi-même, je ne m'a pas raconté. Hier, avant-hier, je suis passé dans quelques écoles de la capitale, je suis allé payer les frais scolaires pour les enfants, mais c'est terrible. Dans une école, vous arrivez, on vous dit, voilà, comme un enfant vient d'une autre école, il est nouveau, vous payez $360 comme frais scolaires. $360, s'il vous plaît, la totalité, annuelle. Alors, en dehors de cela, vous devez verser 20 000 francs, ce qu'on appelle frais de l'État, pour certaines classes, première, quatrième, soit toujours 1 500, pour le même frais, toujours le frais de l'État, pour les autres classes. Dans certaines écoles, j'ai vérifié moi-même, c'est tellement. Alors, en dehors de cela, quand vous faites déjà le calcul, vous êtes déjà dans les $280, même au-delà. Vous calculez les uniformes, on est déjà sur place dans l'école. Ça va de 9, 10, voire $11. Par chemise, la chemise seulement, pas le pantalon ni la jupe. La chemise seule, $9, $10, et moi j'en ai acheté 2 à $11. Et sans compter les fournitures scolaires, on exige une vingtaine de cahiers. Les livres, pas moins de 10 livres. Et je me demande, comment expliquez-vous que dans d'autres écoles, je vais te dire ça ou ailleurs, les frais scolaires annuels, on demande pas $80, mais dans la même capitale, dans un autre coin, on demande juste le double. Pourquoi cette divergence-là?
Voilà.
Alors, est-ce que le ministre, aussi le ministre avait parlé de cela, là, il a suspendu, il a dit on ne peut plus vendre les fournitures scolaires dans les établissements. Est-ce qu'il a seulement tenu discours ou il a poursuivi aussi, il a mené aussi des enquêtes pour vérifier que seulement si on n'est pas en train de faire ce commerce-là, parce que ça fait faire. Tantôt du passé, vous allez voir que ce sont des réalités.
Mmh.
Alors, quand vous faites le calcul, vous allez dans les $500 sans compter le transport. Parce que la femme doit payer chaque jour, quand vous calculez toute l'année, c'est même au-delà de l'université. Alors, je voulais un peu que le petit exercice, c'est celle que j'ai posée, et que le gouvernement puisse prendre au hasard un œil vers les montants fixés par les certaines écoles, pas seulement les écoles privées. Il y a des écoles de l'État aussi, les écoles catholiques bien connues. Merci beaucoup, M. le Président.
Jean, vous êtes ici à Kinshasa. D'abord, vous voulez savoir les frais fixés par l'État pour cette année, combien doit-on payer ce que l'État a fixé? Au-delà, il y a ces problèmes de $300, $500, $400, $260 exigés par des écoles conventionnées, privées, des écoles toutes ces écoles qui fixent ces frais. Et vous êtes aussi très inquiet, il faut payer des cahiers, des uniformes, comme on l'a dit au début de l'émission, avec une bandelette de couleur jaune ou rouge, payer ça au niveau des écoles. Il faut ajouter à cela aussi la tenue pour le sport, la culotte que les enfants doivent payer à 10-15 $ dans les écoles, tous ces problèmes. Alors vous voulez savoir, qu'est-ce que le ministère fait pour avoir un œil autour de tout ce qui est fixé à gauche, à droite, mais aussi le grand problème, c'est de savoir, cette année, l'État a fixé combien comme frais dans les écoles. Fiston, vous êtes à Calémie, au Katanga. Bonjour, Fiston.
Oui, bonjour, Pierre. Moi, c'est Fiston Longolongo. Je vous appelle. J'interviens en parler de Calémie, au Katanga.
On vous écoute.
Oui. Merci beaucoup pour m'avoir donné le temps de m'exprimer. Je vous informe que chez nous, à Calémie, la rentrée scolaire se prépare avec beaucoup, beaucoup de difficultés que les autres amis ont déjà eu à évoquer. Parce que les parents sont sous-payés, les autres impayés même. Je me demande comment un parent qui vous touche 12 000 francs, 20 000 francs comme salaire aux primes de l'État, et cela après 45 jours, qu'on peut arriver à répondre à tous les besoins qui se présentent pour la rentrée scolaire. À Calémie, bien sûr, la rentrée scolaire, c'est le lundi comme partout dans le pays, mais il n'y a pas vraiment cet engouement pour préparer les enfants pour la rentrée scolaire. Les parents n'ont rien. Le gouvernement qui fait tout avec des slogans, toutes les filles à l'école, éliminer les premiers enfants de la rue. Il faut que tout le monde soit ait accès à l'éducation ou ait accès à l'école. Mais de l'autre côté, le gouvernement ne facilite pas les gens réellement à faire scolariser les enfants. C'est pourquoi demain ou après demain, nous aurons encore assisté à un retour en force des enfants ou du phénomène des enfants de la rue. Il y a des écoles qui vous ont dit 250 $ comme en compte. Mais ces parents, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela? Lui, touche 20 000, vous le demandez, vous payez 250. Mais s'il a besoin de faire scolariser l'enfant, mais qu'est-ce que le gouvernement pour tout ça? J'ai suivi l'invité qui dit, non, le suivi doit être fait par les provinces, bien sûr. Mais qui va contrôler les provinces? Parce que si on constate que les autorités provinciales ne font rien pour suivre cela, que fait le gouvernement pour le gouvernement central? Je pense que le gouvernement central doit peser sur les provinces. Et les provinces vont payer sur les districts, et aussi vont payer parce qu'il y a des écoles dans des villages. Si ils vont nous dire que ce sont les provinces qui doivent faire ça, et qui va contrôler les provinces? Je pense que le suivi doit être à tous les niveaux, et le gouvernement doit nous faciliter. Parce que les écoles qui étaient aujourd'hui sont en train d'exiger de faire n'importe quoi. Mais ils sont gérés par disons sous le contrôle du ministère de l'Union, il n'y a qu'un seul ministère au pays, il n'y a pas deux pour les privés et pour les écoles de l'État. Les gens ont tendance à fuir les écoles de l'État parce que l'enseignement est vraiment au rabais. L'enseignement n'est pas payé. Il arrive là où il ne fait pas raconter ou parler au téléphone, faire des affaires de l'enfant, afin de garder silence, et lui qui dira il le faute, jusqu'à toujours, il n'est pas payé. Mais chez les privés, quand même, là, on prend le temps d'encadrer les enfants, mais ils commencent aussi à exagérer les débats. Ils commencent à exagérer, et le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour ramener tout le monde à l'ordre, parce que les arrêtés de fonctionnement sont délivrés par le ministère. Et il n'y a pas de départ, on dit non, délivrez-moi l'arrêté, moi je vais viser un compte de 250 de 400, et le gouvernement accepte non. Pour solliciter, on vient avec des mots qui plaisent, mais quand on a l'arrêté, on fait n'importe quoi. Et s'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de suivi, et je pense que nous allons assister à des catastrophes. Alors nous, tout le monde a besoin de faire scolariser les enfants, mais que le gouvernement nous aide à faire cela.
Merci Christian. Merci Christian. Vous êtes à Calémie. Vous demandez au gouvernement de pouvoir faciliter la tâche aux parents d'arriver à scolariser les enfants. Sinon, on risque d'avoir encore des enfants qui vont aller nombreux dans la rue. Et là, vous demandez au gouvernement de pouvoir peser sur les provinces pour savoir si les gens respectent les directives. Il faut qu'on sente cette présence-là sur votre souci, parce qu'il y a ces écoles qui fixent les frais, autant d'argent qu'ils demandent. Mais alors, tout cela doit être suivi du gouvernement central jusqu'au niveau des districts, comme vous avez évoqué. Christian, vous êtes à Tikwit dans la province de Bandundu. Bonjour Christian.
Bonjour Monsieur Pierre.
Nous faisons le point
avec vous. Bonjour à tous les auditeurs et à l'invité de la radio Fatigue.
Voilà.
Christian Magé depuis Tikwit.
Voilà, nous faisons le point Christian sur la rentrée scolaire de ce lundi, les problèmes qui se posent dans votre milieu. On vous écoute.
Monsieur Pierre, c'est un peu déplorable. Ici à Tikwit, malgré que difficilement, les parents sont en train de se débrouiller pour acheter des fournitures scolaires pour leurs enfants. Alors, la première chose que j'ai remarqué, dans une école, il y avait un NEA, or les finalistes qui ont fait un NEA, qui n'ont pas eu toutes les options. Les finalistes se sont organisés pour saccager, dégager à un jour, abîmer toutes les histoires qui se trouvent à l'école. Les bancs, les champions, les... Alors, comment demain, en fait, le lundi prochain, les élèves de premier ou deuxième peuvent aller à l'école? Ben, finalement, aujourd'hui, ce que M. Jean de Kinshasa venait de dire, ça continue. Je ne sais pas ce que le ministre avait dit la fois passée. Il ne faut pas que les fournitures telles que les uniformes soient vendues dans des établissements scolaires. Mais jusque-là, ce n'est pas mis en pratique. Ça fait remarquer que jusque-là, dans des écoles catholiques, ça, je peux préciser. Et qu'est-ce que les gouvernements vraiment prennent comme décision par rapport à ça? Donc, c'est ma question que je vais poser.
Voilà, vous posez la question à notre invité, oui. Vous avez dit, Christian, qu'il y a eu une école qui a été saccagée par le finaliste mécontent, qui a échoué à l'examen d'État 2011-2012, et puis cette école a été saccagée. On ne savait pas si les enfants vont y réintégrer l'école dans cet état-là. Mais pourquoi il n'y a pas de mesures, de sanctions contre les écoles qui vendent des uniformes, contrairement à ce qui a été dit au niveau du ministère, pourquoi vendre des chaussures à l'école, des chaussettes, des cravates, des chemises, des insignes, tout cela? Votre inquiétude, pourquoi il n'y a pas des sanctions au niveau du ministère? La question sera posée à notre invité au temps vers la fin de cette émission. Nous allons écouter Clément qui est en Bujimaï, au Kassai Oriental. Bonjour Clément.
Oui, bonjour Pierrot, bonjour à notre invité.
Et on vous écoute Clément.
Je voudrais que dire ceci. Nous ne sommes pas à la barre pour que l'invité présente ses moyens de défense. Mais ce qu'il doit savoir, c'est que de toutes les interventions et sur toutes les instances de la RDC, où est-ce qu'il a entendu une moindre intervention pour dire que la rentrée scolaire se prépare très bien? Nous félicitons le ministère de l'EPST de ce qu'il est en train de faire dans d'autres provinces ou dans l'étendue de la RDC pour l'organisation des examens, pour la tenue de la rentrée, bien sûr. Mais ce qu'il doit savoir est que la prolifération des écoles privées sur l'étendue de la RDC contraint la population à certaines exigences que la population ne veut pas. Parce que les services démissionnaires, dans quelle province, dans quelle ville où l'État congolais a organisé la rentrée scolaire dans ces écoles où les parents doivent inscrire correctement et convenablement les élèves? Il n'y en a pas. Donc tous, nous faisons recours et nous supportons les caprices des promoteurs, ces commerçants qui traînent au cou. Voilà un peu le plus grand problème. Il faudrait que le ministère se penche un peu là-dessus. Donc la prolifération, et que lui aussi qu'il fasse les écoles en organisant correctement et permettre que ces parents qui sont démunis, ces parents qui ne sont pas payés correctement, ces parents qui souffrent de tout au temps pour qu'ils parviennent à supporter correctement la rentrée scolaire de leurs enfants. Voilà, je vais passer
la question. Voilà, merci Clément. Nous allons vous accorder la parole, M. Jovem Mukadi. Vous avez suivi aujourd'hui, il y a un problème qui régit encore, on ne va pas revenir sur ce que nous avions déjà dit, mais les gens s'inquiètent par rapport à ces problèmes de la gestion des écoles privées qui se multiplient. C'est parce qu'il y a beaucoup d'écoles privées, parce que les gens se rendent compte qu'il y a un problème de faiblesse au niveau des écoles publiques, ils vont se réfugier dans les écoles privées et là, ils sont à la merci des promoteurs. Mais au niveau du ministère, qu'est-ce qui doit être fait pour élever le niveau des écoles publiques afin, bien sûr, de pouvoir sauver les parents qui n'ont pas les moyens de pouvoir amener ses enfants dans les écoles privées où il y a autant d'exigences pour que les enfants soient scolarisés, M. Jérôme Mukadi.
Merci beaucoup. Je crois que là, il faut regarder la proportion que nous avons d'écoles privées par rapport aux écoles publiques. Quoi qu'on dise, le nombre d'écoles privées ne dépasse pas le nombre d'écoles publiques dans ce pays. En fait, il y a eu ce qu'il y a eu avant, c'est-à-dire que la baisse de confiance dans tout ce qui est public, et on se cramponne sur les choses privées. Mais en allant chez les privés, ils constatent également qu'il y a des méfaits. Je crois qu'on doit faire la part des choses. Je l'ai dit, on vient de loin. Il y a 20 ans, les parents se sont eux-mêmes occupés de l'éducation, de la scolarisation des enfants. Aujourd'hui, l'État fournit un effort dans la réhabilitation, dans la prise en charge des écoles. Je crois que je l'ai dit. Pour tout ce qui a été soulevé comme problème au niveau des écoles catholiques, je crois que la rentrée scolaire, il faut le dire, ne se prépare pas maintenant, puisque c'est dans 2 jours. La rentrée scolaire se prépare dès que on a annoncé la fin de la rentrée, disons, de l'année scolaire 2011-2012. Maintenant, là, nous sommes en train d'aller dans la rentrée et nous allons faire l'évaluation. À ce moment-là, s'il y a des sanctions qui doivent être prises plus tôt, c'est à ce moment-là que les sanctions seront prises contre les préfets ou les chefs d'établissement qui se seront mal comportés. En plus, j'aimerais souligner ceci. En ce qui concerne le prêt scolaire, je crois qu'il y a un élément important que nos auditeurs doivent retenir, c'est que les frais scolaires ont été décentralisés pour demander à chaque province de tenir compte de sa situation socio-économique pour fixer le frais. Les frais ne sont pas fixés au niveau du gouvernement central, c'est fixé au niveau provincial, et ce, après avoir suivi les recommandations des commissions provinciales de l'éducation, qui regroupe à son sein les représentants du gouvernement, de l'exécutif provincial, les représentants de la société civile et les syndicats des enseignants. Voilà comment les choses se passent. Mais s'il y a maintenant des dérapages au niveau de chaque école, je crois que c'est à l'école, c'est au comité des parents de nous dire ce qui se passe, de sorte qu'on puisse prendre des sanctions. Nous allons passer à l'évaluation de la rentrée scolaire bientôt, et des sanctions seront prises là où il y aura des dérapages.
Voilà
ce que je peux dire.
Oui,
mais si
vraiment
a abandonné les écoles, je ne crois pas. Nous avons le plus grand nombre d'écoles, et le privé, c'est aux parents de faire le choix. Ils ont la possibilité. Bien sûr que le privé arrive parce que je l'ai dit dès le début, l'éducation c'est une affaire de tous. Les privés viennent pour aider le gouvernement à scolariser un plus grand nombre d'enfants. Mais s'il y a eu un problème de manque de confiance dans l'État, entre l'État et la population, je crois qu'aujourd'hui les choses sont en train de changer. C'est en reconnaissant cela que les parents réclament encore davantage que le gouvernement fasse accroître les efforts pour améliorer la situation. Et je crois que sous la houlette du chef de l'État, la vision est là, les objectifs sont définis dans une stratégie, et nous sommes en train d'évoluer pour que les choses changent, parce qu'aujourd'hui, l'éducation, c'est la priorité. On a compris que c'est avec l'éducation qu'on peut développer ce pays. On y va et on doit y aller tous ensemble. Société civile, parents, gouvernement, et pourquoi pas les privés, puisque dans d'autres pays, c'est le secteur privé, non pas au niveau de l'école, mais au niveau même du financement, sachant que c'est les privés qui a besoin d'une main d'œuvre qualifiée, ce sont aussi les privés qui financent l'éducation des enfants. Voilà ce que je peux dire.
Merci, on vous libère, monsieur Jérôme Moukadi. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes sur les conseillers chargés de la coopération internationale au ministère de l'EPSP. On va terminer cette émission en 1 minute et demie avec Thibin qui nous a appelé des Lubumbashi. Avant de conclure, au nom des auditeurs, Thibin, vous êtes avec nous, bonjour. Oui, il y a en 1 minute pour terminer cette émission consacrée à la rentrée scolaire.
Oui, ici, à Lubumbashi, la rentrée scolaire, ça se prépare bien, mais il fait que j'étais demandé à M. l'invité. Ici, à Lubumbashi, les frais scolaires, c'est au-delà de $150, les frais scolaires, M. Manuel, au-delà de $150. Mais à la faculté, nous payons $180. Quand on totalise, quand on fait l'inventaire pour les frais scolaires et les fournitures scolaires, les fournitures scolaires, ça peut aller jusqu'au-delà de $50. On fait l'inventaire de tout cela. Donc, nous payons plus. Alors, je ne sais pas ce que les
gens merci, Tibin. Voilà. Merci, Tibin. Vous êtes revenu sur ce qui. Les auditeurs ont dit peut-être qu'il faudrait qu'au niveau du ministère, ils puissent aider les gens à comprendre les frais scolaires par rapport à ce que le ministère détermine, ce que les écoles demandent comme prime que les parents payent dans les écoles. Merci beaucoup. Vous avez été très nombreux à vouloir vous exprimer par rapport à la rentrée scolaire qui est fixée au 3 septembre prochain. Nous vous disons tous merci. On se retrouve lundi 3 septembre pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. Vous savez que pendant cette période, les députés nationaux et les sénateurs sont en vacances parlementaires. D'après le règlement intérieur des deux chambres du Parlement, pendant cette période, les élus doivent séjourner au moins pendant un mois dans leur circonscription électorale pour s'entretenir avec les électeurs. Comment vos élus passent-ils les vacances parlementaires dans votre milieu? On prend rendez-vous pour le lundi prochain. Déposez votre commentaire sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Merci à toute l'équipe Tissou Koutou, Willem Lundamba, et Contest Matouba et Ben Kabara pour la production de cette émission et surtout, bon week-end en compagnie de Radio Capital.